Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons avoir les nouvelles du ciel avec Denis Latapie, étudiant en astrophysique à l'Observatoire de Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est votre travail ?
Alors, mon travail consiste justement, donc dans le cadre de mes études, à préparer un mémoire universitaire qui porte sur l'étude d'une famille bien particulière de galaxies, qu'on appelle aussi les galaxies irrégulières.
Mmh. Est-ce qu'on peut savoir la différence qu'il y a entre une planète et une étoile ?
Alors, la différence entre une planète et une étoile ? Une étoile, eh bien, c'est un corps qui vit par sa propre lumière. C'est une grande réserve de gaz, notamment de l'hydrogène, qui est transformé en éléments chimiques plus lourds grâce à des procédés de fusion thermonucléaire. Et la lumière, justement, qui est émise par ces étoiles, résulte justement de ces réactions. Et la particularité donc des étoiles, c'est d'émettre des rayonnements dans toutes les directions de l'espace. Tandis qu'une planète, c'est un corps qui ne vit pas par sa propre lumière et qui ne fait que réémettre en fait de l'énergie lumineuse. Non pas dans toutes les directions, mais dans des directions bien particulières. Elles jouent le rôle en fait de miroir et ne font que réfléchir donc la lumière d'une étoile située dans l'environnement.
Mmh.
Alors exemple, le Soleil est une étoile. Et si nous pouvons justement voir les planètes dans le système solaire, c'est que ces planètes-là ne font que réfléchir justement la lumière émise par le Soleil qui est située dans le système solaire.
D'accord. C'est vrai que le ciel est toujours un sujet de curiosité et je crois que ça remonte à très longtemps. L'homme a toujours été très curieux du ciel.
Oui, tout à fait. Il faut remonter jusqu'à l'Antiquité, même jusqu'à 30 000 ans avant Jésus-Christ. On a retrouvé des traces même sur des os d'aigle où les lunaisons, curieusement, sont représentées. Donc, durant toute l'Antiquité, et puis suite aussi à la transcription justement de tous ces phénomènes sur des supports tels que le papyrus, par exemple, ça a permis donc de transmettre justement toute cette connaissance. Alors, c'est vrai que ça a suscité donc la curiosité des hommes depuis la préhistoire. Donc, ce sont aussi des questions existentielles. Depuis très longtemps, on voit donc ces fameux astres, ces étoiles qui apparaissent donc fixes dans le ciel, ce qu'on appelait à l'époque la sphère des fixes, parce qu'on pensait que justement ces fameuses étoiles, ces astres, étaient fixés en fait sur la voûte céleste. Mais au cours du temps, on s'est aperçu qu'il y avait des objets lumineux qui se déplaçaient, ce qu'on appelle aussi des astres errants. Alors là, évidemment, ça a suscité la curiosité d'un certain nombre de personnes. Mmh. Voilà.
D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, nous, simples humains de la Terre, à partir du 29 avril ?
Alors, à partir du 29 avril, vous aurez toujours la possibilité de voir ce qu'on appelle l'étoile du berger, qui n'est entre autres que la planète Vénus, après le coucher donc du soleil, direction ouest. Donc, c'est l'étoile c'est une étoile, ou plus précisément une planète, qui est particulièrement brillante. C'est la planète la plus brillante du ciel. Et non l'étoile la plus brillante du ciel, et qui est en fait Sirius. Et ensuite, à partir du 29 avril, il y aura la possibilité de pouvoir observer une étoile variable, Algol, qui s'appelle Algol, qui se trouve dans la constellation du Persée, qui arrivera à son minimum d'intensité, parce que c'est une étoile variable, c'est-à-dire que le volume même de cette étoile varie au cours du temps. Et ça a forcément donc un impact sur la luminosité qui est émise justement par cette étoile, donc en fonction du temps.
Oui. Donc. Vous dites qu'elle change d'intensité, c'est parce qu'elle s'use ?
Alors non, en fait, alors, elle s'use, oui, parce qu'il y a des mécanismes de réaction thermonucléaire, comme dans toutes les étoiles. Hein.
Oui.
Mais la particularité de cette étoile, c'est qu'elle est entre guillemets pulsante, c'est-à-dire qu'elle va avoir son volume qui va se dilater, puis qui va se contracter de façon périodique. Donc ça passera par des phases donc de luminosité importante, donc maximale, et puis minimale. Donc ça, c'est beaucoup plus destiné justement aux astronomes amateurs qui sont équipés d'une paire de jumelles ou d'un télescope et qui mènent une étude justement sur les étoiles variables.
Oui. Qu'est-ce qui fait que quand on regarde le ciel le soir à l'œil nu, on voit les étoiles, puisque moi je ne sais pas faire la différence, on dirait qu'elles sont lumineuses et que la lumière varie, qu'elle bouge?
Justement, quand on observe les étoiles, donc on constate en effet qu'elles scintillent. Alors ceci s'explique essentiellement par la couche atmosphérique, parce que dans la couche atmosphérique, il y a différentes strates, il y a des courants qui impactent justement la trajectoire du faisceau lumineux qui nous parvient justement des étoiles. Donc
d'accord.
Ce phénomène-là, on appelle ça la réfraction de la lumière. Et selon les lois de la physique, une étoile qui est située donc au zénith, en principe, elle ne doit pas scintiller. Donc c'est un critère pour savoir si la qualité du ciel est correcte ou pas. Alors en principe, donc, elle ne doit pas scintiller. Et plus on observe donc, un astre au-dessus de l'horizon, et plus la lumière sera perturbée donc, par rapport à ces phénomènes atmosphériques.
Mmh.
Alors je vous rappelle que Mercure est donc la planète la plus proche du Soleil, qui est située à peu près à 60 millions de kilomètres. Et la particularité du 29 avril, c'est que Mercure sera en élongation maximale ouest, c'est-à-dire qu'elle sera dans des conditions qui seront intéressantes justement pour l'observer, parce que l'écart angulaire entre justement la direction de la Terre et du Soleil, la direction de la Terre et de Mercure sera suffisamment grande justement pour pouvoir l'observer. C'est une planète qui est particulièrement difficile à observer parce qu'elle est souvent très basse au niveau de l'horizon.
Mmh. Très bien. Et la pleine lune ?
Et la pleine lune, donc ça sera pour le 30 avril, donc à 0h58 exactement, en temps universel. Donc vous pourrez donc la voir. Bon, la pleine lune n'est pas forcément la phase la plus intéressante pour l'observer, parce que les rayons du soleil tombent, on va dire, perpendiculairement à la surface. Malheureusement, on voit moins bien le relief justement de la lune.
Mmh. Ensuite, les Pléiades, il y a un site pour pouvoir avoir des renseignements et éventuellement pour ceux qui ont envie de venir vous rejoindre pour pouvoir voir le ciel.
Alors oui, tout à fait. Donc j'invite à toutes les personnes justement qui sont intéressées et qui sont curieuses de découvrir donc les planètes ou télescopes. Vous avez donc un site qui est le www.les-pléiades.asso. www.a2so.fr. Et là, tous les auditeurs pourront donc avoir des renseignements sur toutes les activités concernant les Pléiades. Donc, à savoir qu'il y a des week-ends escapades. Il y a possibilité aussi de pouvoir donc assister à des séances de planétarium le dimanche à 16h. Donc ça, c'est sur réservation, bien entendu. Et puis, on peut louer aussi une cabane qu'on appelle la cabane au clair de lune, où on peut passer d'excellents week-ends au clair de lune. Voilà. Il y a également aussi des astro-repas qui sont organisés. Donc là, on a la possibilité de pouvoir manger sur place et puis observer les astres avec de nombreux instruments. Mm-hmm. Donc ça va de la simple paire de jumelles au télescope de 35 cm de diamètre, ce qui n'est pas négligeable pour observer en détail les astres.
Oui. Voilà, donc pour les amoureux du ciel, le soir, on peut donc rejoindre lespléiades.asso.fr. Ensuite, le 27 avril, il y aura quoi à voir ?
Alors, il y a un cycle de conférences qui est organisé justement par les Pléiades. Donc le 27 avril à 21h exactement, il y aura une conférence donnée par Monsieur Laurent Cambon qui concernera donc les spectres. Les spectres qui sont en fait la signature, la carte d'identité en fait des astres. Comme ça, on peut déterminer la température, la vitesse des astres par rapport à ce procédé.
Mmh. Et ensuite, on va passer au mois de mai. Là, ça sera les galaxies.
Alors, les galaxies, eh bien, j'aurai le plaisir de présenter cette conférence concernant les galaxies parce que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que justement, je prépare un mémoire à l'Observatoire de Paris et ça sera présenté pour le 4 mai.
D'accord. 4 mai à partir prochain. De quelle heure ?
À partir de 21h pour toutes les conférences.
Bien. Ça tombe bien, nous sommes sur Radio Galaxie, justement, avec la galaxie, nous sommes en parfait accord.
Oui, tout à fait, et je trouvais même curieux qu'il n'y ait pas, justement, d'émission consacrée à l'astronomie. Donc, je vous écoute régulièrement, surtout les bulletins astrologiques. Alors, avec Monsieur Jacques Sanchez, on s'est quand même mis d'accord pour faire quelque chose, parce que ça serait bien le diable qu'on ne présente pas d'émission sur l'astronomie à Radio Galaxie.
Voilà. En tout cas, c'est très sympathique à vous. Et on peut toujours vous poser des questions quand il y aura les conférences.
Ah oui, tout à fait. L'intérêt aussi d'organiser ces conférences. Donc, oui. Ce sont des conférences ouvertes pour tout public.
Oui.
Donc, je tiens quand même à rassurer, on ne rentrera pas dans un jargon scientifique incompréhensible. Il n'y a aucun intérêt de faire cela. C'est surtout bien se rincer les yeux, si j'ose dire, avec de belles images sur notre environnement astronomique.
Merci beaucoup, Denis Latapie. Ce sont les nouvelles du ciel. Et je rappelle que vous êtes étudiant en astrophysique à l'Observatoire de Paris. À bientôt.
À bientôt. Je vous remercie. Je vous remercie à tous.